Donc je suis le père Pierre-Marie Castaigneau, j'appartiens aux serviteurs de Jésus et de Marie. Je suis à l'abbaye d'Ourscan dans l'Oise, à côté de Compiègne. Et ce soir, j'aimerais, un peu de façon provocative, parler des incohérences de l'écologie, en tout cas questionner ce mouvement qui semble faire une sorte d'unanimité parmi nos citoyens, mais qui pose un certain nombre de difficultés. Questionner les incohérences de l'écologie, évidemment, ne veut pas dire ne pas prendre soin de ce que le pape François appelle la maison commune. Vous le savez, que le pape François a écrit une lettre encyclique qui s'appelle Laudato Si, et où il parle de la question de l'écologie en lien aussi avec la question de la solidarité. Donc, bien sûr, ce n'est pas encourager au gaspillage, etc., etc. C'est plutôt questionner les prérequis, un aspect plus philosophique. Je ne suis pas dans la partie technique, je ne suis pas compétent. Est-ce que le GIEC a des rapports qui tiennent la route, quid du réchauffement climatique, etc. Je suis absolument incompétent dans ces domaines-là. Mais en revanche, je suis plutôt compétent dans les domaines de la philosophie. Et donc, c'est à partir de la philosophie que j'aimerais questionner quels sont les prérequis. Et le premier questionnement, en tout cas, je trouve, que j'aurais à faire, c'est la place de l'homme dans la nature. Quelle est la vision de l'homme que sous-tend l'écologie? Qu'est-ce que cette protection de la nature veut dire? Est-ce que l'homme a une place particulière, ou est-ce qu'au fond, c'est un parmi d'autres, parmi tous les êtres vivants qui peuplent la Terre, c'est un parmi d'autres? Et vous avez des courants dans l'écologie qui soutiennent ça, dire qu'au fond, non, l'homme n'est pas différent vraiment des animaux. C'est ce qu'on appelle l'antispécisme. Peut-être vous avez entendu ce mot-là, l'antispécisme. L'homme est un animal comme les autres. Il n'a pas de rôle particulier. Au contraire, c'est parce qu'on a vu et que la religion judéo-chrétienne a transmis que l'homme était celui qui allait dominer. C'est à cause de ça qu'on a nos problèmes. Si l'homme était comme les autres, les animaux, nous n'aurions pas de problème. Eh bien, ça, évidemment, nous le questionnons, parce que dans notre foi, et c'est là aussi, il y a un aspect spirituel qui est important, nous portons une vision de l'homme. Et donc, nous portons aussi une vision de l'écologie et de la protection de la nature. Bien sûr que nous sommes invités à protéger la nature, mais nous, ce contact avec la nature, nous le portons nous-mêmes comme créatures. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas des êtres autonomes. Le fait de répondre, et vous vous rappelez le livre de la Genèse, hein, je vous invite à le relier les premiers chapitres, etc. Dominez la terre, faites-la fructifier, multipliez-vous, etc., etc. L'homme et la femme sont vus comme les gardiens. Ils sont vus comme ceux qui sont invités à être responsables de ce qui leur a été donné et à rendre des comptes. Dominer la terre, être gardien, c'est ce qu'on appelle un anthropocentrisme. C'est vrai que la personne humaine est au cœur même de la création dans la vision judéo-chrétienne, on peut dire. La personne humaine est au cœur de la création, mais la personne humaine n'est pas toute puissante face à la création. Et c'est là la différence. La personne humaine aura des comptes à rendre. C'est un serviteur. C'est quelqu'un qui est amené à avoir une attitude d'humilité par rapport à la réalité de la création et à sa place. Et on voit bien qu'une certaine forme d'écologie qui vient nier cette place particulière de la personne humaine est une sorte de mauvaise interprétation de la Bible, comme un anthropocentrisme mal éclairé qui conduirait au fond à voir l'homme comme une menace. C'est l'homme qui est la menace. Et donc vous avez à travers ça, de voir que la personne humaine est l'origine du mal, un mouvement qui est aussi dans l'écologie, un peu à voir avec le malthusianisme. En fait, nous sommes trop nombreux sur Terre, protégez la planète, n'ayez pas d'enfants. Je me souviens comme ça d'une journaliste pratiquement s'excusant, elle me dit « Oh oui, j'aimerais avoir un enfant, mais je sais que c'est mal. Je sais que c'est mal. » Et vous entendez des personnes, et ça c'est une idéologie, vous voyez, ça c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'idéologie, de voir que la personne humaine est la source du problème, diminuons le nombre de personnes humaines, et bien il n'y aura plus de problème. Voilà, c'est laissons la nature faire sans l'intervention de l'homme. Mais vous voyez qu'est-ce qui sous-tend cette idéologie, cette manière de voir que vous trouvez aussi dans certains courants, parce qu'il y a plusieurs courants dans l'écologie, etc. Qu'est-ce qui sous-tend, c'est que la personne humaine, au fond, est toute puissante, elle est sans Dieu, elle est autonome, et c'est précisément le fait de voir la personne humaine comme autonome. Autonome, vous savez ce que ça veut dire, autonomos, à soi-même sa propre loi, que la personne humaine n'est pas créature, mais dans une toute puissance. C'est ça qui crée des dérèglements. C'est ça qui crée un rapport à la nature qui est blessant et qui n'est pas ajusté. On voit qu'au fond, le concept correct de voir la personne humaine, c'est de reconnaître qu'il est le Seigneur, mais qu'il est aussi administrateur. De certaine manière, il devra rendre des comptes. Nous sommes là comme dans une gratitude de voir cette création qui nous a été donnée, mais nous-mêmes, nous avons cette profonde confiance que nous, et humilité, c'est avec modestie que nous utilisons les biens de la terre. Un autre point qui me paraît important de souligner, c'est que bien souvent, l'écologie voit l'aspect, j'allais dire, uniquement biologique, uniquement technique. Et ce que j'apprécie beaucoup dans cette encyclique du pape François, Laudato Si, que je vous invite à lire, qui est vraiment un très grand texte, pour moi c'est un des plus grands textes de ce début du XXIe siècle, ce que je trouve très intéressant dans sa vision, c'est que tout est lié. Il dit tout est lié. Évidemment que la manière de concevoir la personne humaine va faire qu'on a une certaine manière d'avoir un rapport à la nature. Et on voit bien que de voir que nous-mêmes, nous sommes des êtres aussi spirituels, nous sommes invités à être en relation avec Dieu, ce qui veut dire aussi que notre place face à Dieu, face au prochain, face à la nature est liée. Tout est lié, il y a quelque chose qui, une sorte, ce qu'on appellera, vous avez peut-être entendu le mot, l'écologie intégrale. Ce n'est pas juste un aspect technique, voilà, il faut prendre moins de bains, plus de douches, il faut monter les escaliers plutôt que l'ascenseur, il faut prendre plutôt le train ou le vélo plutôt que la voiture, etc. Ce n'est pas juste un aspect technique. Et je trouve ça dommage parfois que l'écologie se réduise à une technique et réduise au fond à une technique. C'est un aspect aussi bien plus large de que la personne humaine se sente dépendante déjà les uns des autres. Et ce que j'apprécie beaucoup dans le texte du pape François, c'est qu'il dit « Le cri des pauvres, c'est le cri de la nature. Le cri de la nature, c'est le cri des pauvres. » Je ne peux pas envisager une démarche de protection de la maison commune sans envisager une solidarité. Sans envisager une solidarité. Et ça, je trouve, c'est vraiment... tout parce que tout est lié. Tout est lié. Hein. On voit bien, on voit bien cet aspect spirituel quand on regarde le péché originel, si vous vous rappelez un peu les premiers chapitres de la Genèse. Le péché originel, précisément, voyez au fond comme cette séparation d'avec Dieu, ce manque d'obéissance, de confiance dans la parole de Dieu, a entraîné la séparation entre les êtres humains, c'est Caïn et Abel, a entraîné le fait que la terre soit maudite, et donc le travail soit difficile, donc une difficulté par rapport au lien avec la nature. On n'a pas une connaissance de la nature intuitive. Hein, ça devient quelque chose d'une certaine pénibilité, et il y a quelque chose de cassé dans notre lien avec la nature, cassé parce que justement notre contact avec Dieu a été cassé, et de là le contact avec les autres est cassé, et le contact aussi avec nous-mêmes, entre âme et corps, on voit bien qu'il y a un tiraillement à l'intérieur de nous-mêmes, hein, comme dit le grand apôtre saint Paul, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas, voilà. Mais je trouve ça important que nous, d'où on parle quand on parle d'écologie, parce qu'on a aussi un discours. On parle de cette vision de la personne humaine. Ça me paraît capital. S'il n'y a pas cette vision de la personne humaine, il n'y a qu'un technicisme, il y a une personne humaine qui ne répond à rien de transcendant, qui au fond une personne humaine qui est toute puissante, qui est la cause des dérèglements, parce qu'on va mettre un autre Dieu, que ce soit le confort, que ce soit la recherche de l'argent, on va mettre un autre Dieu à la place du Dieu véritable, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et donc, je trouve ça intéressant de questionner l'écologie là-dessus, parce que, d'une certaine manière, dans ses fondements, je trouve, telle qu'elle nous est présentée, hein, alors on dit oui, on est un pays laïque, etc., etc., mais dans ses fondements, je trouve qu'il y a quelque chose qui me questionne, qui me paraît un peu incohérent, parce qu'on refuse, évidemment, on voit bien dans les partis, ils ne vont pas prêcher une indépendance d'avec Dieu, de se voir comme créature, etc. Bon, mais en même temps, le fait d'être autonome, de ne pas reconnaître que nous avons une transcendance au-dessus de nous, eh bien, c'est la cause de tous les dérèglements. Je trouve que c'est quelque chose de au fond, qui est à retravailler. Et je trouve bien dans cette encyclique du Saint-Père de dire tout est lié. Tout est lié. Mon rapport avec Dieu, mon rapport avec le prochain, avec moi-même et avec la nature, c'est lié si je me mets comme une créature face au Créateur. Mais si je laisse, au fond, mon attitude me déconnecter du Créateur, ne pas me reconnaître comme créature, eh bien, c'est toute une série de liens, dont les liens avec la nature, qui sont blessés et qui sont cassés. Il n'y a plus de cette connexion. Et donc, l'écologie, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle, curieusement aussi, un aspect intéressant, c'est qu'elle questionne notre rapport au manque, à la limite, à nos désirs. Suis-je capable de gérer des frustrations, de sortir de la toute-puissance, du culte du confort? Et c'est le pape François qui, dans son encyclique, parle de la sobriété. Je trouve ça intéressant de nous laisser questionner, c'est une question qui est pertinente, est-ce qu'on a d'autres limites à nos désirs que le besoin de confort? Parce que oui, nous sommes dans une société confortable, nous vivons et nous venons de familles qui sont confortables, où on a manqué de rien, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est un absolu pour nous? Ou est-ce que je suis capable d'accueillir une certaine limite, une certaine modestie, une certaine sobriété? Est-ce que je suis capable de me priver d'un certain nombre de choses uniquement parce que, ou pour le partager avec d'autres, mais aussi pour ne pas gaspiller de façon excessive? Par exemple, moi, je trouve un critère qui est assez intéressant. C'est quelque chose que je n'ai pas utilisé pendant un an. Je pense par exemple à un vêtement. Quelque chose que je n'ai pas utilisé pendant un an ne m'appartient plus. Ça pourrait être un critère de discernement. Et je trouve que l'écologie nous questionne là-dessus. Et nous questionne sur le manque, l'acceptation de la sobriété. Hein. Alors c'est sûr que présenter l'écologie comme ça, évidemment, ça n'attire pas des voix. On est dans des périodes d'élection, etc. On voit bien que ça n'attire pas des voix, parce qu'au fond, ça demeure un effort. Et ça veut dire quelque chose que le rapport à la nature n'est pas quelque chose de spontané pour moi. D'avoir un vrai ajustement entre moi et la nature, il y a quelque chose qui est de l'ordre du travail sur moi-même. De même, l'ajustement avec le prochain ou l'accueil de moi-même, ça demande aussi un travail sur moi-même. Et je trouve ça intéressant de présenter notre rapport à la nature dans une globalité, en disant, oui, nous sommes comme créatures, mais créatures blessées, eh bien, nous sommes des personnes qui sont appelées à faire une conversion, au fond, à une conversion, qui sont appelées à un retournement, qui sont appelées à accueillir la limite, qui sont appelées à ne pas voir le culte ou de l'argent ou du confort ou d'une manière ou d'une autre, de tout ce qui... Nous sommes appelés à un effort, ce n'est pas spontané. De même qu'aimer n'est pas spontané, le contact avec la nature n'est pas spontané. Je pense que c'est bien de le rappeler. Il y a quelque chose en nous de la toute-puissance. Hein, vous vous rappelez les trois formes de toute-puissance, hein, que l'on retrouve aussi dans le récit des tentations. Hein, la toute-puissance par rapport au corps, la toute-puissance par rapport au bien et la toute-puissance par rapport à l'esprit. Donc ces formes de toute-puissance sont en nous. Et qu'est-ce qui va être aussi... Une conséquence de cette toute-puissance, c'est une utilisation des biens matériels et des biens naturels qui va être déséquilibrée. Voilà, je n'accepte pas une certaine humilité. Parce qu'au fond, la sobriété, c'est une humilité. C'est une humilité. Mais qui va, dans un parti politique, vous imaginez, prendre ça comme ligne de conduite. Voilà, il faut être plus humble. Mais c'est la solution. C'est une humilité, accueillir la limite, accueillir le manque, être dans une sobriété. Voilà, je trouve que c'est la vie chrétienne. Et je trouve ça intéressant, c'est la sobriété, c'est se réjouir de peu. Se réjouir de ce carpe diem chrétien, vous savez, ce carpe diem chrétien, c'est d'une certaine manière découvrir que dans notre vie, je suis capable de me réjouir des peu de choses. Et peut-être certains d'entre vous, vous avez fait des séjours ou humanitaires, ou voilà, des engagements humanitaires dans des pays beaucoup plus pauvres, ou être ici même en contact avec des personnes pauvres qui ne manquent pas non plus en France, bien de dire, tiens, au fond, ces personnes-là m'apprennent à me réjouir de peu. Et est-ce qu'au fond, la vraie écologie, c'est pas ça? C'est avoir ce regard contemplatif, cette gratitude par rapport à ce qui m'est donné, et ne pas être dans une course d'un toujours plus. D'un toujours plus qui ce hamster dans la roue, il n'y a pas de repos. Je peux toujours rajouter à ma garde-robe, je peux toujours rajouter des objets techniques, je peux toujours rajouter des voyages, je peux toujours rajouter etc. etc. De dire ben non, j'accueille une limite. Ça veut dire j'accueille mon statut de créature et donc une sobriété et aussi une conversion au fond intérieur. Alors c'est vrai qu'il y a une forme de conversion écologique dans ce sens-là que je viens de dire, c'est la conversion, au fond, le combat spirituel de tout chrétien. Chacun d'entre nous, nous prenons conscience qu'en nous-mêmes, il y a quelque chose de déréglé par rapport à nous-mêmes, on a vu à mes corps, mais de déréglé aussi par rapport à d'autres personnes. Il y a des personnes que je rejette, il y a des personnes que au contraire, je veux dominer, je ne suis dans une toute puissance, parce que je suis dans une position ascendante, hein, et puis de dérégler par rapport à la nature, une toute puissance par rapport à la nature. Donc, je trouve c'est intéressant de dire notre vision, c'est de dire, nous sommes responsables, nous sommes blessés, et la nature va être un pédagogue pour nous apprendre à nous rééduquer, à accueillir une certaine humilité, une sobriété et nous réjouir de peu. Je trouve que il y a une vraie dimension spirituelle, en tout cas, dans notre manière de vivre notre rapport à la nature, très différente d'une certaine idéologie, parfois, que je trouve dans certaines présentations écologiques où, au fond, tout est vu sous ce prisme-là. Donc, dès que tu respires, ben oui, c'est du carbone qui part dans l'air. Dès que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci, etc. C'est comme une forme de religion. Oui, mais tu as donné ça. Mais alors, on doit se justifier comme une culpabilité, hein, écologique, parce qu'on a pris l'avion. Oui, bon, alors, vous voyez, par exemple, le maire de Lyon qui est écolo voilà, les Verts, etc., le parti des Verts. Voilà, mais qui avait pris l'avion, etc., tout de suite, les médias sont emparés, mais comment vous pouvez être écolo et prendre l'avion, voilà, oui. Une sorte de culpabilité qu'on retrouve, voilà, dans certains, peut-être plus chez les militants ou chez des personnes. Je trouve que c'est pas la bonne manière, c'est pas comme ça qu'on encourage un rapport responsable avec la création. En tout cas, je ne trouve pas. Parce que, bah oui, bien sûr que le fait d'exister, bah, rien que le fait de venir ici, il y a une empreinte carbone, j'allais dire, de cette conférence de ce soir. Parce que vous vous êtes déplacé, je me suis déplacé, le caviste s'est déplacé, etc., etc. Bah, ces déplacements, évidemment. Mais de tomber comme dans certaines idéologies, de nous culpabiliser régulièrement, et sans espérance, si vous voulez, je trouve que c'est sans espérance, ou uniquement des solutions techniques, alors que je crois, me semble-t-il, la question n'est pas d'abord technique. La question, elle est d'abord de la place de la personne humaine, comme je vous l'ai dit, dans la nature et dans le monde. Hein. Donc, je trouve ça intéressant de nous rappeler justement que ce culte du confort, ce culte de l'argent, voilà, qui procède au fond de la non-reconnaissance de la transcendance de Dieu, hein, qui fait que nous tombons dans un rapport avec la création qui n'est pas équilibré. et un rapport avec les autres qui n'est pas équilibré. Et encore une fois, ce que j'apprécie beaucoup dans le document du Saint-Père, c'est ce lien, il fait le lien entre ma relation aux autres, dit quelque chose de ma relation à la nature, la relation à la nature dit quelque chose de la relation aux autres. Et ce que je trouve très beau, en tout cas dans notre dimension, dans notre foi catholique, dans notre Église, c'est le rapport, vous avez peut-être été scouts les uns et les autres, et je trouve que dans le scoutisme, il y a de façon équilibrée à la fois un rapport à la nature et un rapport avec la troupe, aux autres membres de la troupe, etc., qui fait qu'il y a une vraie éducation de la personne dans son ensemble. Ce n'est pas juste un point que je vais travailler ou un aspect technique. Je ne peux pas dire, je prends du vélo, je ne prendrai plus jamais l'avion de ma vie, etc., et être absolument pas fraternel avec mes collègues ou ma famille, par exemple. Oui, ce serait, nous faisons partie d'un écosystème. Un écosystème de relations. Nous faisons partie d'un écosystème de relations qui fait que cet écosystème de relations, il faut en prendre soin. Mais ça retentit, et je me permets d'insister, les difficultés relationnelles ont aussi un impact dans ma manière de vivre et un impact aussi sur la nature. Mais mes difficultés d'accueillir des limites et de me mettre dans une certaine sobriété aussi a un des conséquences positives par rapport aux relations que je peux avoir. C'est bien de voir les choses et dans cette dimension, comme dit le Saint-Père, tout est lié. Hein. Donc cette vie chrétienne qui propose justement de se réjouir de peu, ce n'est pas une vie à basse intensité, c'est avoir des joies simples, c'est vivre ce carpe diem, cette sobriété, cette humilité, qui certes ont mauvaise presse, mais qui au fond sont les voies pour arriver vers un plus grand respect de la nature, me semble-t-il. On en a un exemple, je trouve, dans la vie monastique. La vie monastique, avec ora et labora, vous connaissez ce ora et labora, prier et travailler, dans la vie monastique, il y a à la fois un contact avec la nature, avec le travail, hein, qui sanctifie, et la nature dont on est responsable, et à la fois une dimension de vie de prière. L'écologie intégrale, c'est développer la dimension aussi contemplative de nos vies. Et une hyperactivité, forcément, va à l'encontre de cette dimension contemplative de nos vies. Mais là aussi, vous n'entendez jamais dans le discours écologique cette dimension-là. Prenez de dire, au fond, d'avoir un juste rapport à la nature, c'est être plus contemplatif. En tout cas, je ne l'ai jamais entendu. Et je trouve ça, et c'est là où j'interroge. Pour moi, il y a quelque chose qui est central dans notre rapport et dont la vie monastique donne le témoignage, mais ce n'est pas les seuls. Hein, ce ne sont pas les seuls, les moines, à donner le témoignage de ça, mais de dire une dimension de vie de prière est unie aussi à un rapport à la création qui est équilibré. Parce que je reprends conscience de mon état de créature. Parfois aussi, la cohérence justement dans l'écologie, c'est de voir que je protège les animaux, etc., mais je justifie l'avortement. Le Saint-Père en parle très clairement dans Laudato Si, il dit, là il y a quelque chose de tout à fait incohérent. Comment est-ce que je vais protéger, par exemple, si vous devez, je vous dis une petite anecdote, à l'abbaye, on avait des nids d'hirondelles. Mais attention, si on touchait aux nids d'hirondelles, et qu'on nous voyait toucher des nids d'hirondelles, on pouvait avoir une amende. Mais en revanche, l'embryon dans le sein maternel est moins protégé que le nid d'hirondelle. C'est quand même problématique. Vous voyez, il y a là une incohérence qui est massive. Bien sûr, les écologistes, je ne veux absolument pas l'entendre, mais parce qu'ils disent c'est mon choix, etc. Bon, très bien, mon corps, mon choix, très bien. Mais c'est mon choix, c'est précisément une des sources du dérèglement que l'on a actuellement. Parce que mon choix est au-dessus de tout. Ma liberté est au-dessus de tout. Ben non. J'ai à répondre aussi, j'ai un créateur. Et je trouve ça intéressant de voir que le Saint-Père interroge cette partie qui est plus intime, parfois douloureuse, mais c'est intéressant de dire que l'être humain, dès sa conception, fait partie de la nature, il est aussi un écosystème à lui tout seul. Et donc de respecter l'être humain, c'est respecter aussi un écosystème. Je trouve dans le domaine de Alexandre Sapin, j'ai un peu regretté, ne l'a pas du tout évoqué dans son encyclique, mais par exemple, encourager la prévention des divorces. On se dit, mais quel est le lien avec l'écologie? Pour moi, il me semble assez évident. Parce qu'évidemment, les divorces, ça veut dire qu'il y a deux maisons, il y a deux voitures, il y a des trajets, il y a les enfants qui sont un peu en mode balle de ping-pong entre les parents, etc., etc. Et là aussi, je trouve qu'on va peut-être pas assez loin de dire, au fond, le mariage tel que le conçoit l'Église catholique est un mariage qui protège non seulement les époux et les enfants, mais aussi, parce que tout est lié, qui protège la nature. Et ça, on le voit nulle part. Moi, je n'ai jamais vu dans aucun programme de dire pour protéger la nature, pour éviter la multiplication des maisons, etc., on va mettre en place un processus qui va aider à prévenir les séparations et donc à avoir moins d'impact carbone pour maintenant, parce qu'il faut deux maisons, deux voitures, etc., etc. Ça, on ne le voit pas. Je trouve qu'on ne va pas peut-être... Et ça, c'est une incohérence, en tout cas... Un questionnement que je fais par rapport à ceux qui portent ce... Quelque part, ça ne va pas assez loin. Vous voyez, ça ne va pas assez profond, je veux dire. Mais du coup, dans ma vie intime, parce que là, on parle d'intimité, que ce soit la protection de l'enfant dans le sein de sa mère, que ce soit le mariage indissoluble, c'est l'intimité. Mais comme si là, au fond, non, là, personne ne peut rien me dire, quoi que ce soit. C'est ma vie privée. Ben non. Ta vie privée, évidemment, retentit sur les autres. Évidemment. Et évidemment, retentit sur la nature. Vous voyez, c'est là. Voilà, c'est un peu des questionnements. Et encore une fois, personne, aucun parti politique va proposer de mettre en place un programme de prévention des divorces. Personne va faire ça. Personne. Donc, voilà. Mais ils ne voient pas forcément le lien avec justement la... Et je trouve ce qui est riche justement dans l'encyclique du Saint-Père, c'est justement d'insister sur cet aspect que tout est lié et que cette invitation, au fond, à une solidarité globale. Hein, on parle de... Ce document a été fait pour la COP21, donc c'est en 2015 de mémoire, et c'était le village global, etc., la globalisation de tout. Mais il dit, où est-ce qu'est la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité? Nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu, et nous sommes donc communion avec la nature, communion avec les frères et sœurs en humanité, hein, communion avec nous-mêmes. Eh bien, oui, c'est l'importance d'avoir ce regard, de dire je suis d'abord en lien et je suis une famille. Et c'est important, dans notre foi catholique, on voit, si on récite le Notre Père, c'est parce qu'on se voit comme une famille. On se voit comme une famille. Alors qu'on voit bien notre société, c'est une juxtaposition d'individus, un individualisme. Individualisme qui se retourne contre la nature, évidemment. Évidemment. Parce que je n'accepte pas l'inconfort, parce que je n'accepte pas, je veux ma privacité, etc., etc. Bon, c'est ce que vivent nos sociétés modernes. Donc, le fait de se considérer comme une famille, c'est accepter aussi l'altérité, que l'autre soit autre que moi, soit différent de moi, et accepter l'altérité, c'est accepter ma place dans le monde avec humilité. Au fond, le péché, on peut dire, est anti-écologique. C'est une menace sur l'humanité, sur la nature, l'égoïsme, l'orgueil. Voilà la vraie menace sur la nature. Et j'aime bien cette phrase de saint Paul, apôtre aux Romains, vous la connaissez peut-être, je vais la redire, là, 8. Romains 8, 19, 23, qui est assez étonnant, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le rapport à l'écologie, où il y a des exemples, le semeur est sorti pour semer, la vigne, etc. Mais vraiment une vision, et je trouve intéressant dans saint Paul, dit « Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons, la création tout entière gémit, elle passe par des douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas la seule, nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. C'est intéressant comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase de saint Paul qui appelle à un salut de la création. Qui, au fond, ce salut de la création, c'est et qui est lié au fond à notre propre salut. Si le péché est un lieu, évidemment, qui se retourne contre la nature, eh bien, ce sera le salut qui nous permettra de retrouver un lien équilibré. Alors, dans l'au-delà, alors c'est mystérieux parce qu'on se dit, mais la création appelle le salut, etc. Donc, elle aussi, comme si, d'une certaine manière, notre salut, notre contact avec le Seigneur, notre cheminement spirituel est aussi lié au salut du monde entier, pas seulement un salut personnel et portatif. Donc, je trouve intéressant, alors comment ça va se faire? C'est un mystérieux parce que les arbres, etc., du coup, tout ça, ça va être sauvé, ça va être. Voilà, c'est des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la gloire de Dieu va irriguer, comme au commencement, encore plus qu'au commencement, irriguer toute la réalité de la création. Et on trouve ça, par exemple, je trouve, chez les saints. Vous voyez, il y a certains qui ont des. On connaît bien le miracle de saint François, hein, le miracle des loups, etc., où il y avait certains saints ont un contact avec la nature que nous avons perdu, parce que ce contact avec Dieu qui leur donne une sorte de communion avec la nature, une capacité d'entrer en relation, chose que nous avons perdue par le péché originel. Là où je suis, par exemple, à l'abbaye d'Ourscan, eh bien, il y a tout, avec saint Éloi, toute une histoire où justement Éloi, qui était à Noyon, qui est à côté de l'abbaye, venait avec son bœuf et sa charrette, et tout d'un coup, il y a un ours qui sort de ces contrées inhospitalières et qui mange et tue le bœuf. Et Éloi dit, en fait, légende, ou en tout cas son histoire, dit Éloi a dompté l'ours et retourné à la ville de Noyon avec l'ours qui tirait la charrette. Alors, nous, ça nous paraît étonnant parce qu'on se dit, tiens, mais bon. Et donc ça donnait Ourscan, le chant de l'ours, hein, Ursus Campus. Voilà, je trouve ça intéressant de dire, tiens, au fond, les saints nous amènent à un rapport à la nature qui est dans une confiance. Ils ne se voient pas comme ennemis de la nature. Vous vous rappelez, dans Isaïe, là, le lion et le chevreau auront même pâturage, etc. Donc il y a quelque chose qui est en devenir dans la nature, qui a à voir avec notre propre vie spirituelle et avec notre propre salut. Et évidemment, je trouve que c'est quelque chose qui est éminemment inspirant. De ma conversion intérieure, de ma conversion, qui est aussi une conversion écologique aussi, mais qui est une conversion relationnelle, parce que tout est lié, de ma conversion intérieure va dépendre aussi le lien que j'ai avec la nature. Va dépendre l'avènement du Sauveur. Et donc, pour nous, c'est très clair que l'écologie ne peut pas être qu'un technocentrisme, hein, avec des solutions qui sont parfois proposées uniquement des solutions techniques. Hein, parce qu'on voit bien la complexité des enjeux, par exemple la production de l'énergie, etc., l'électricité. Alors oui, il faut mettre des éoliennes, mais il faut mettre des panneaux solaires, mais les panneaux solaires, c'est la Chine qui les fabrique, et dans quelles situations et conditions les ouvriers travaillent en Chine, quid des droits de l'homme en Chine, etc. Donc du coup, en faisant ça, est-ce qu'on n'encourage pas? Oui, c'est complexe. Hein, donc j'entends bien que les enjeux sont complexes et parfois il faut arbitrer dans un certain nombre de choses. Mais en tout cas, le fait d'avoir une vue, j'allais dire, de dézoomer, de sortir du côté très technique, technocentré, je trouve que ça nous permet de prendre de l'altitude et aussi peut-être de trouver des solutions auxquelles nous n'aurions pas pensé. Parce que précisément, nous avons un regard sur l'être humain, sur la place de l'être humain, qui n'est pas uniquement un regard technique. soyons face à cette communion, à cette liaison entre nous, etc. Et donc, c'est important de découvrir que cette, parfois, et on voit bien que cette confiance irrationnelle dans le progrès, hein, le progrès, c'est tout le 19e siècle avec la révolution industrielle, le progrès, c'était la, voilà le salut de l'humanité. Voilà le salut de l'humanité, le progrès. Et le progrès en engendrant deux grandes guerres, des guerres mondiales, le progrès s'est retourné aussi contre la personne humaine et contre la nature. Donc, et on voit par exemple, tiens, la question de la paix, c'est quelque chose d'éminemment en lien avec la nature. Parce que si les hommes souffrent, la nature souffre aussi dans un temps de guerre. Donc je trouve ça intéressant de découvrir de nous-mêmes, d'être attentif à ça, d'être profondément confiant aussi. Et comme chrétiens, nous avons une parole à donner. Nous avons une responsabilité, modestement, à la place que nous occupons dans notre vie quotidienne, d'avoir des gestes qui sont attentifs, qui sont évidemment voilà, de protecteurs, autant faire se peut, etc. Mais aussi, nous avons, parce que nous avons là notre foi, eh bien, il y a quelque chose, un regard qui est différent et que nous pourrions partager aussi avec eux. Parce que cette question de l'écologie, on voit bien, dans votre génération, c'est quelque chose qui est très fort. Qui est très, je vois par exemple les frères, les jeunes frères qui sont rentrés dans la communauté, sont très sensibles à ça. Ils disent, voilà, il va falloir qu'on amène notre éco-cup, etc. Voilà, bon, je regarde ça, bon. Oui, on a des verres, on est là aussi. Moi, c'est un peu des trucs un peu qui m'échappent. Mais bon, c'est on n'a pas la même génération et c'est très bien. Voilà, ils sont très sensibles à ça. Mais très bien, les éco-cups, très bien. Ne pas jeter à tout va, très bien. Mais sûr que oui, ça, on ne gaspille pas, c'est bien sûr. Il y a de la nourriture et bon. Mais je trouve ça intéressant de dire, tiens, mais comme jeune disciple de Jésus, vous avez aussi quelque chose à dire sur ce rapport à l'écologie, à ceux qui, avec beaucoup de bonne volonté et avec beaucoup d'enthousiasme aussi, s'engagent dans cette cause-là et sont vraiment parfois assez admirables, mais peut-être de leur dire attention, quels sont les prérequis qui sont à l'origine de votre action, quels sont les fondements que vous avez, quelle est la vision de la personne humaine que vous avez par rapport à son lien avec la nature. Comment vous voyez ça? Est-ce que l'homme est un obstacle, est une menace? Est-ce qu'au contraire, il est partie de la solution? Est-ce que l'homme aura à répondre de ses gestes? Est-ce qu'on a aussi à accueillir un certain effort? Voilà, je trouve que c'était là-dessus tout simplement que je voulais m'exprimer ce soir, parce que on n'entend pas souvent ce discours-là, en tout cas certainement pas dans la sphère politique, de cette manière je peux comprendre, mais même dans la sphère militante, on n'entend pas, et peut-être on n'entend pas assez les disciples de Jésus et les chrétiens que nous sommes s'exprimer sur ces questions. Nous aussi, nous avons une vision, une manière de voir les choses, qui n'est peut-être pas la vôtre, mais qui est pertinente, et qui nous donne, nous aussi, d'agir et de rendre le monde meilleur. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre des questions pour approfondir, pour rebondir sur tel ou tel aspect, ou compléter, ou interroger ? Merci pour ta question, mais là c'est la question de la place de la personne humaine dans le monde. Ça, c'est pour nous, on voit la personne humaine du côté de la solution, on la voit pas que du côté du problème. Et j'allais dire même, voilà, c'est, je sais pas quoi répondre, parce que c'est savoir avec la dimension de la transcendance, l'accueil de la transcendance. De dire ce qui veut dire, au fond, la personne humaine n'est pas un bien pour la nature. N'est pas un bien. Donc, toi-même comme personne humaine, tu es une menace pour la nature. Il faut toujours ensuite questionner, est-ce que c'est comme ça que tu te vois? Est-ce que c'est comme ça que tu vois les autres personnes, comme des menaces? Dans notre foi, alors toi tu n'as pas la foi, je respecte ton cheminement, etc. Mais dans notre foi, bah, nous voyons la personne humaine comme un trésor. Hein, tu as du prix à mes yeux et je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Et je t'aime. Et de voir cette capacité d'amour que chaque personne humaine a, c'est une chance pour la nature. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais de voir, savoir ce... Et du coup, j'interrogerai aussi le regard assez pessimiste de ces personnes qui font se découragent et découragent les autres. Et voilà, voilà, je me dis, quelle est la vision? Moi, j'irai plus loin que la question écologique. Quelle est la vision de la vie? Quelle est ta vision de la vie? Tu trouves que le fait d'être une personne humaine, c'est une grâce, c'est une capacité d'aimer, c'est une capacité de... Voilà, c'est interroger là-dessus parce qu'on ne peut pas aller dans le domaine spirituel. D'autres questions des uns et des autres? Parce qu'on vous pose, vous voyez des choses, ou vous en parlez avec d'autres, ou des collègues, ou des cette question de l'écologie, etc. Et peut-être, ou des choses qui vous ont surprises dans ce que vous avez entendu, ou vous sentez qu'il y a une forme d'idéologie parfois qui s'empare de cette question. Oui, allez-y. Le salut est plus large, ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul dans la lettre aux Romains, je vous ai cité le passage, qui est assez mystérieux. Je ne vais pas cacher ça, c'est quand même la création aspire à un salut. Parce qu'en fait, c'est le monde entier qui aspire à retourner au Père par le Christ, et nous-mêmes, dans notre cheminement spirituel, nous entraînons plus que nous. Le salut n'est pas, et ça c'est la tradition chrétienne, en tout cas, le salut n'est pas que simplement personnel et portatif. Le salut concerne le fait de m'améliorer comme personne, retentit aussi sur les autres. Et donc, de dire, mais là où c'est mystérieux, et là je botte en touche, pardon, mais comment ce salut de la création, comme le dit saint Paul, la création inspire au salut parce qu'elle-même a été frappée par le mal. Mais de même qu'elle a été frappée par le mal, elle peut être frappée par la grâce si l'homme se retourne vers Dieu. Donc c'est ce retournement vers Dieu qui va entraîner toute la création à sa suite. C'est mystérieux. Je vous invite à relire ce passage de Romains 8, 19, 23. Romains 8, 19, 23. Qui est le seul passage de cette nature, parce que le Christ n'en parle pas du tout, en tout cas, pas, il prend des exemples avec la nature, mais il n'y a pas de théologie comme ça de la nature. Il fait allusion à la Genèse, évidemment, mais c'est saint Paul, et c'est que dans saint Paul, et que dans ce passage-là, où il y a une théologie de la nature, et une théologie du salut appliquée à la nature. Voilà, c'est assez mystérieux, mais en même temps, je me dis, tiens, si le péché originel nous a coupés du Christ, de Dieu, et nous a coupés de la nature, que le Christ nous rapproche de Dieu, nous remette dans la communion de Dieu les uns avec les autres, c'est pas non plus complètement délirant de dire qu'il remet aussi la création dans la communion avec le Père. Et ça passe par nous. Mais c'est vrai, c'est étonnant, parce que je dis comment ce sera une vache, par exemple, dans l'au-delà, dans la résurrection des morts. Tout ça se passera à la résurrection des morts, etc. Quand le Christ, sera tout en tous. Les cieux nouveaux et une terre nouvelle. Une autre manière même, une autre manière d'être en relation les uns les autres, mais une autre manière d'être aussi en relation avec tout le créé. Oui, donc la question est de savoir est-ce que la technicité, au fond, n'est pas aussi un soutien pour pouvoir transformer. Oui, bien sûr, mais ce qui me taquine, c'est de ne réduire qu'à ça. C'est un peu mon questionnement. C'est, on peut ne pas être d'accord, hein, bien sûr, mais de dire, tiens, que la question écologique soit que technique, elle est technique, parce qu'il faut des données, il faut la mise en place d'un certain nombre de processus, etc., qui nous aident à préserver la nature, mais n'oublions pas que le progrès est à l'origine de tous les dérèglements qu'on connaît, et le progrès est un progrès technique. Donc, ça, le progrès aussi, maintenant on ne parle plus de progrès, parce qu'après deux guerres mondiales qui ont fait des millions de morts, qui sont aussi le fruit du progrès. Donc, il faut juste questionner cet aspect-là de la technique. Elle a sa place, elle donne des éléments, et là je suis tout à fait d'accord, mais cette technique, elle ne peut pas être la seule à donner, me semble-t-il, en tout cas, toute l'ampleur de la question, et cette question-là... qui doit avoir quelque chose de plus haut, une vision plus haute quoi, que l'aspect uniquement technique. Parce que la technique, je l'ai dit avec je ne suis pas du tout spécialiste, mais avec l'énergie, etc. Voilà, dès qu'on a une solution technique, mais en fait, il y a d'autres choses, il y a un impact. Par exemple, j'accompagne un couple qui est en Allemagne, il me dit que le prix de l'électricité a tellement bondi parce qu'on n'a plus de centrales nucléaires, plus, que l'économie allemande est en difficulté, qu'on n'arrive plus à trouver de travail. Voilà. Donc, on a voulu avoir un aspect technique, on dit voilà, plus d'impact, les mines de charbon, parce qu'il y avait beaucoup de charbon qui produisait l'électricité en Allemagne, vont faire, les nucléaires doivent fermer, que du renouvelable, le prix de l'électricité a explosé, les entreprises ne sont plus compétitives, le chômage est apparu, voilà, et donc la difficulté de trouver un emploi. Donc on voit que les questions, parce que tout est lié, donc en tout cas ça ne peut pas être que technique, me semble-t-il. Oui.
Soyez sucrés, vous nous dites, remplissez la terre, je mettez là. Soyez les maîtres, les poissons, les oiseaux, les sociétés, tous les animaux, etc. Voyez vous rappeler le texte, le ticket, le sens de ce texte.
Le sens, c'est en fait. Donc le contexte, donc c'est en Genèse, hein, le chapitre de la Genèse, soyez féconds, multipliez-vous, dominez la terre, voilà, c'est soyez les maîtres des poissons, des animaux, etc. etc. C'est que tout le créé a été confié à l'homme et à la femme. Tout le créé, la réalité créée, a été confiée à la personne humaine. Et c'est qui est à l'image, qui est la seule, qui est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Les autres poissons, etc., sont tout à fait sympathiques, mais ils ne sont pas à l'image et à la ressemblance de Dieu, en tout cas pas dans notre religion. Et donc, et croissez, multipliez, de dire que cette capacité d'avoir la vie est une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que donner la vie est une bonne nouvelle. Alors, il y a une maîtrise de soi-même, il y a une bien sûr, mais il peut y avoir 10 milliards de personnes humaines, mais il n'y aura peut-être pas 10 milliards de voitures, si vous voulez. Donc, je crois que c'est un peu dans cet aspect-là de dire, ne voyez pas la vie humaine comme une menace. Croissez, multipliez. Hein. Ne voyez pas la vie humaine comme une menace, mais au contraire, vous êtes les gardiens de la création, et comme gardien, vous avez une responsabilité, des comptes à rendre. Oui, allez-y.
J'avais une question sur. Vous avez beaucoup parlé d'une méthodologie qui met en amont les solutions techniques, la technicité, le propre technicisme. Moi, ce que je vois beaucoup aussi, c'est des mouvements écologistes qui sont sur un problème totalement différent et justement qui critiquent ce technicisme, qui est la critique de technosolutionnisme.
Oui. Ah oui. Alors, je connais pas tous les mouvements écolos, étant moi-même pas inscrit dans aucun, donc du coup, je peux pas tellement répondre, mais c'est vrai que il y a des formes de gens, voilà, il faut arrêter tout, il faut plus une décroissance massive, il faut plus du tout produire, il faut plus du tout arrêter. Bon, c'est un peu dans ce sens-là, c'est ça que tu dirais, un peu cette vocation-là. Voilà, c'est, ça paraît quand même un peu idéaliste. C'est des gens aussi qui sont très idéalistes. Et est-ce que, dans, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait des biens qui nous sont, même matériels, qu'est-ce qu'on fait de la technique ? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous connaissez très bien vos classiques. Hein, donc, c'est-à-dire que c'est pas tant technique ou pas, c'est-à-dire comment je vais m'en servir et qu'est-ce qui est derrière, ces personnes-là, je connais mal, hein, ce mouvement dont tu parles, mais qu'est-ce qui est derrière ce mouvement, quels sont les fondements, est-ce que c'est une vision très négative, un peu désespérée de notre monde, et donc notre monde, il faut vraiment arrêter parce que on va à volo, etc. J'interrogerai dans ce sens-là, plutôt. Oui, bon. Alors, je n'ai pas compris la question, alors, mais... Alors, il faut peut-être se rapprocher ou articuler. Est-ce que l'humain n'est pas animal, c'est ça ? Ah oui, oui. Oui, oui. Ah oui, oui, le malin derrière ça. Oui, le malin derrière beaucoup de choses. Oui, oui. Alors, c'est sûr, c'est un relativisme, bien sûr. Bien sûr, le relativisme, c'est à chacun sa vérité et on n'accueille pas une objectivité. Et pour nous, l'objectivité, dans la vision de la personne humaine, elle est assez claire. Donc, oui, oui, bien sûr. Et de dire que le malin... Oui, c'est intéressant ce que dit Saint Paul, là, notre ami Paul. Là. Donc, il dit, nous le savons, la création gémit parce qu'elle passe par des douleurs de l'enfantement. La création a été soumise au pouvoir du néant. Non pas à cause d'elle-même, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. C'est-à-dire que bien sûr que nous croyons que le démon s'oppose au plan de Dieu et s'oppose au plan de Dieu dans notre rapport à la création. Voilà, donc oui, oui pour les deux réponses, oui pour les deux questions.